Très bien. Bon, alors on va commencer donc à propos des rapports entre démocratie et droit avec Karen Akoka qui va vous parler un peu, j'espère, un peu de l'asile et en particulier ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, par rapport au problème de l'asile, le discours qu'on entend, c'est le discours selon lequel il y aurait un détournement du droit d'asile et que par rapport à il y a 10, 20, 30 ans, où là on avait des vrais réfugiés politiques, aujourd'hui le réfugié n'en est plus un, c'est plutôt un réfugié économique et que donc ce détournement du droit d'asile aurait comme principale conséquence d'augmenter la population immigrée en situation irrégulière. Et il est vrai que dans les pratiques des associations, on voit que la très grande majorité des réputés sans papier sont des gens qui sont déboutés du droit d'asile. Donc, Karen Akoka va pouvoir nous parler de ça. Elle est doctorante, elle va bientôt terminer sa thèse à Migrinter. C'est sûr. Et donc, Laurent Villemel va parler, lui, de professionnalisme et institutions judiciaires. Bon, je vais le laisser parler et présenter lui-même son intervention. On va d'abord commencer donc peut-être par le problème de l'asile. Et après, il y a un lien qui se fait parce qu'après tout, l'asile, en appel, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Donc c'est une cour, hein, une cour de justice. Et donc, ça sera intéressant de comparer les pratiques. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est la bonne distance, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'asile, ça fait partie d'une panoplie de symboles aussi, utilisés pour parler de l'état de nos démocraties. Il peut être brandi pour s'enorgueillir de la belle éthique et de la force des principes démocratiques, ou alors au contraire, pour montrer l'affaiblissement de ces principes. Il y a un stock de données, de toute façon, disponible, où chacun, finalement, peut trouver midi à sa porte. Il y en a qui peuvent utiliser ce stock de données, par exemple, le pourcentage élevé de demandeurs d'asile enregistrés en France, plus élevé que dans la plupart des pays européens, comme preuve du bon fonctionnement de l'idéal démocratique, ou alors d'autres qui peuvent utiliser la chute du taux d'accord au statut de réfugié depuis la fin des années 70, comme preuve du déclin de ces valeurs démocratiques. Alors, qu'en est-il de cette place et aussi de la fonction de l'asile dans notre système? Je vais commencer par le deuxième indicateur dont je vous ai parlé, la chute du taux d'attribution du statut de réfugié. On est passé d'un taux d'accord au statut de réfugié de 95% en 1976 à 28% en 2009. Donc, entre ces deux dates, le chiffre, il n'a fait que baisser. Pour expliquer cette chute, là encore, on a plusieurs thèses qui s'opposent. Pour les uns, ce qu'on disait, la chute est la preuve que la demande est devenue mauvaise. C'est comme ça qu'on dit un peu dans le jargon institutionnel, la preuve que les étrangers qui sollicitaient l'asile, jusqu'au milieu des années 70, c'était des vrais, et maintenant, avec la fermeture des frontières, c'est des faux, des migrants économiques qui se servent de l'asile pour obtenir le droit de rester en France. En face de cette thèse, contre l'idée de ce détournement de la procédure d'asile par les demandeurs, d'autres défendent au contraire l'idée d'un détournement de la Convention de Genève, qui est la convention qui définit qui est un réfugié, par les institutions. Donc dans cette optique, ce n'est pas la demande qui est mauvaise, mais c'est la réponse institutionnelle qui est mauvaise. Et il y a un troisième courant, des voix qui s'élèvent pour attirer l'attention, non pas sur la mauvaise application de la Convention de Genève par les institutions ou sur son détournement par les demandeurs, mais sur la désuétude de la Convention de Genève. Adaptée aux réalités du monde de la guerre froide, cette convention ne serait plus adaptée aux nouvelles situations dans lesquelles se trouvent la plupart des demandeurs aujourd'hui, qui fuient des conflits ethniques et généralisés plus qu'une menace personnelle, individuelle de persécution. Donc dans cette perspective-là, il ne s'agirait pas de dissuader les faux, ou alors dissuader les faux par une procédure plus sévère, ou alors de transformer les pratiques des institutions chargées de dire qui est réfugié pour les rendre plus souples, mais il s'agirait de revenir sur le texte même de la Convention de Genève et de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc voilà, on a trois grandes façons de penser. Alors, ces différents positionnements, qui sont apparemment opposés, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est qu'il y a une tendance à considérer la période des années 50-70 comme un temps où auraient coexisté des vrais réfugiés et une réponse institutionnelle juste. Juste, c'est-à-dire une adéquation entre les pratiques des institutions chargées de dire qui est réfugié et la supposée réalité objective de ce qu'est un réfugié. Donc, cette vision d'une demande et d'une réponse bonne, elle fait l'impasse sur la nature éminemment construite de la qualité de réfugié, de la catégorie de réfugié, et la nature éminemment politique de la Convention de Genève. Il n'y a pas de réfugié naturel auquel correspondraient ou non les candidats à l'asile. De la même manière que la Convention ne peut pas être considérée comme un texte neutre, qui serait applicable de façon objective si tant est que les institutions chargées de le faire soient indépendantes. C'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer, parce que je pense que ça ne suffit pas que je vous le dise. Donc, comme beaucoup de catégories, et peut-être plus encore celle de réfugiés, la catégorie de réfugiés, elle est propice à l'essentialisation. On est ou on n'est pas réfugié. Et cette essentialisation, elle est en particulier, elle est renforcée par les mythes véhiculés par les institutions. Qu'est-ce qu'elles disent les institutions chargées du travail de sélection, qui disent qu'elles reconnaissent. Le terme « reconnaître » est très important, parce que on reconnaît un déjà-là. Ce travail ne ferait que reconnaître une essence qui serait déjà là avant même que le jugement soit présenté. On peut par exemple imaginer les agents de la NPE, ils ne reconnaissent pas la qualité de chômeur. Donc, d'une certaine manière, dans cette logique, on ne devient pas réfugié, on l'est. Pourtant, il suffit de se pencher sur les transformations du contenu de la définition de réfugié pour saisir à quel point le concept est construit, comme tout, évidemment, surtout quand on fait de la sociologie, et à quel point il n'a pas de réalité objective, il n'a pas de neutralité. Alors, je vais essayer de le faire très vite, parce que je vais vous ramener au 15e siècle, donc on va vite en partir. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut attendre vraiment la Seconde Guerre mondiale pour que l'idée de persécution soit associée à celle de réfugié. Le mot réfugié lui-même, il apparaît au 15e siècle. Il désigne que les protestants qui fuient la France après la révocation de l'édit de Nantes. Par exemple, à la même époque, les juifs ou les morts qui fuient l'Espagne catholique, ils ne sont pas qualifiés de réfugiés. À la Révolution, le réfugié, il est défini comme le combattant de la liberté, c'est-à-dire le réfugié est un héros et pas une victime. Sous la monarchie de juillet 1830, le réfugié, c'est uniquement les exilés du printemps des peuples qui demandent assistance à l'État et qui la reçoivent. Tous les exilés du même printemps des peuples qui ne demandent ou qui ne reçoivent pas assistance, assistance financière, ne sont pas qualifiés de réfugiés. Juste après la Première Guerre mondiale, le réfugié, donc dans un temps où on essaye de remédier au chaos de l'après-guerre mondiale, et en particulier à la déconstruction de les empires centraux qui n'existent plus, des nouveaux pays qui émergent, le réfugié, c'est l'apatride, c'est celui qui n'a plus de pays. Et puis, après la Révolution russe, le terme désigne seulement les exilés russes. Et puis, quelques autres groupes, dont les Arméniens. Donc, il suffit d'être russe ou arménien, il n'y a pas besoin de prouver qu'on est persécuté pour être réfugié. Par contre, en dehors de ces nationalités-là, il n'y a pas de réfugié. Et c'est seulement donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la notion de persécution est associée à celle de réfugié. Et c'est vraiment avec la Convention de Genève que la persécution devient centrale et exclusive dans la définition du réfugié. C'est-à-dire que n'est réfugié que la personne persécutée. Alors, donc vous avez vu, je ne peux pas vous le montrer en détail parce que je n'ai pas le temps, mais vous avez vu que les transformations du contenu de la définition de réfugié, elles renvoient à chaque fois à des enjeux politiques et sociaux plus vastes portés par les époques à chaque fois dans lesquelles elles se transforment. Alors moi je vais m'arrêter sur le moment de la construction de la définition du réfugié comme persécuté, donc instituée par la Convention de Genève, et regarder ce moment-là plus en détail puisque on est dans cette période-là où le réfugié est un persécuté. Pour saisir les enjeux politiques qui se cachent derrière cette définition, il faut se tourner donc vers le moment des négociations et de l'élaboration de la Convention de Genève. Ce qui apparaît alors, c'est que l'institutionnalisation du réfugié comme persécuté reflète la victoire des conceptions des blocs de démocratie occidentale sur les conceptions du bloc communiste. Donc pour le dire très vite et mal, mais ensuite je l'approfondirai, elle reflète la victoire des idées de liberté sur les idées d'égalité. Alors je m'explique. Pour les puissances occidentales, ce qui fait problème au moment donc des discussions sur la Convention de Genève, qui est le début de la guerre froide, ce qui fait problème, c'est la répression des libertés par les gouvernements tyranniques. La définition du réfugié, elle doit permettre de défendre la liberté politique des citoyens contre ces gouvernements tyranniques et injustes. Elle reflète en cela une conception idéologique héritée des Lumières qui promeut l'ordre libéral et démocratique et néglige les injustices socio-économiques. Pour le bloc socialiste, ce qui fait problème, ce sont les inégalités justement socio-économiques. Donc la définition du réfugié qu'ils défendent, elle doit permettre de protéger les droits économiques et sociaux des citoyens comme l'accès à l'emploi, le logement, les soins, l'alimentation, etc. Dans la lignée de l'héritage idéologique communiste, hein, qui est plus sensible aux droits collectifs qu'aux libertés individuelles. Alors peut-être un spécialiste du communisme me dirait que ça ne va pas du tout de dire ça, mais... La définition du réfugié comme persécuté, telle que retenue dans la Convention de Genève, elle constitue donc une norme juridique qui protège la liberté politique, mais pas l'égalité socio-économique. Elle garantit aux dissidents soviétiques d'obtenir une protection internationale, tandis que les exclus d'un point de vue socio-économique du monde occidental n'y ont pas droit. La Convention de Genève établit donc une discrimination, si on peut dire, entre un type d'expérience de la violence, la persécution qui est légitime, et d'autres formes de violence économique et sociale qui sont, elles, laissées dans l'ombre. On peut imaginer, par exemple, si la conception des États socialistes, elle l'avait emportée, qu'un réfugié aurait été un individu qui fuit la misère ou la pauvreté, hein, tandis que le dissident politique aurait incarné la figure du migrant indésirable. On aurait une catégorie, qui n'est aujourd'hui pas légitime, du réfugié de la faim, qui se serait alors imposée au détriment d'une catégorie, le faux réfugié politique. Donc, voilà. La Convention de Genève, elle a donc pas, c'est pas seulement qu'elle n'a pas de neutralité politique et que la catégorie de réfugiés n'a pas de réalité objective, c'est que c'est aussi des catégories et un texte juridique, comme toutes les catégories, les textes juridiques, qui sont des catégories floues, à géométrie variable, qui peuvent s'interpréter différemment en fonction des intérêts politiques et économiques supposés du moment. Alors, la Convention de Genève, elle parle de crainte raisonnable de persécution. Elle dit qu'il faut craindre raisonnablement la persécution pour être réfugié. Elle ne dit pas que la persécution doit être personnelle. Et c'est l'interprétation de la Convention de Genève par la plupart des démocraties occidentales que l'exigence d'une persécution personnelle découle. Mais cette exigence, en fait, elle est appliquée de manière différente selon les périodes et selon les groupes de réfugiés. Donc si on fait un bref retour sur l'application de la Convention de Genève par l'OFPRA durant ces années 50 à 70 dont je vous parlais, celle des vrais réfugiés, alors on voit que l'exigence de persécution individuelle, personnelle, elle est loin de s'appliquer à tous les demandeurs d'asile. D'ailleurs, le mot demandeur d'asile n'existe pas. En l'absence de travaux, en fait, il y a très très peu de travaux sur cette période des années 50-70, et parce que la figure du réfugié de cette époque, elle a été instrumentalisée, hein, cette figure du dissident soviétique, du fait de ces deux facteurs, il y a une image d'un âge d'or qui est fait de vrais réfugiés politiques, individuellement persécutés, et qui perdurent. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, quand on se penche un peu plus près sur l'instruction par l'OFPRA de ces demandes-là, pendant ces années-là? C'est une faible incorporation de cette recherche de persécution personnelle et une différenciation selon les groupes nationaux. Alors, je vais vous parler très rapidement, je regarde l'heure, de quelques grands groupes nationaux et de la façon dont leur demande d'asile est instruite pour que vous ayez une image plus précise. On va commencer par ceux qu'on appelle les réfugiés de l'Est. Hein. Alors, j'entends par là les membres du pacte de Varsovie, c'est-à-dire tous les pays qui sont anciennement situés derrière le rideau de fer, donc la Yougoslavie exclue. Le réfugié de l'Est, à travers cette figure du dissident soviétique, c'est vraiment l'archétype du vrai réfugié politique, à l'aune duquel on compare très souvent les demandeurs d'asile d'aujourd'hui pour les disqualifier. Or, les rapports d'activité de l'OFPRA sont jusqu'au début des années 70 remplis de termes comme tolérance, libéralisme, interprétation large, bienveillance au sujet de l'attitude qu'il faut avoir par rapport à ces personnes. Je peux vous lire juste un extrait d'un rapport d'activité de 1970 qui revient sur les pratiques d'attribution à ces réfugiés dits de l'Est pendant de 50 à 70. Donc le rapport dit « Les motivations politiques sont rares, presque toujours incertaines et peu claires. Le fait d'avoir une vive discussion avec un supérieur qui menace de sanctions pour n'être pas un bon citoyen est généralement invoqué comme un motif politique. Il convient d'en débattre, mais l'OFPRA, interprétant largement les critères d'admission et prenant en considération le fait que dans beaucoup de cas, les passeports ne sont plus en règle ou qu'ils n'existent pas, reconnaît la qualité de réfugié afin d'éviter à ces émigrants de se trouver dans une situation inconfortable. » Certainement qu'une politique plus rigoureuse, sans être pour autant injustifiée ni injuste, ferait obstacle, dans la majeure partie des cas, à cette reconnaissance. Alors comment on explique, donc l'OFPRA elle-même, hein, elle est confrontée donc à des gens qui ne font pas semblant d'avoir des motifs personnels, individuels, politiques, puisqu'on ne leur demande pas. C'est parce que ces personnes, elles sont les preuves vivantes de la supériorité du libéralisme, du capitalisme, de la démocratie occidentale sur l'idéologie et le système communiste, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, que le statut de réfugié est accordé aussi largement à ces Russes, Hongrois, Tchécoslovaques, Polonais, etc. La logique d'instruction, donc, c'est pas la recherche de la crainte personnelle de persécution, hein, c'est le fait d'appartenir à un groupe national, un de ces groupes nationaux-là. Alors, je vais prendre rapidement le cas hongrois, parce qu'il est, il est très remarquable. En 1956, il y a une insurrection en Hongrie contre le régime soviétique, qui est réprimée dans le sang par Moscou. Donc, les Hongrois qui arrivent en France, après cet événement, sont non seulement accueillis et aidés financièrement, mais la qualité de réfugié leur est octroyée de manière automatique par l'OFPRA. Or, certains travaux, notamment d'un sociologue qui s'appelle Stéphane Dufoy, ont montré que la grande majorité de ces réfugiés hongrois ont simplement profité de l'ouverture des frontières pendant l'insurrection pour quitter leur pays, suite à l'écrasement des espoirs d'indépendance, de leurs espoirs d'indépendance. Mais pour le gouvernement anticommuniste de Guy Mollet, de l'époque, leur accorder le statut de réfugié, ça permet non seulement de décrédibiliser le régime communiste hongrois, mais aussi de détourner l'attention internationale sur l'intervention franco-britannique de novembre 1956 sur le canal de Suez. Deuxième exemple, les Boat People. Alors, les Boat People, là aussi, un Cambodgien vietnamien principalement, donc là aussi, hein, une des figures du réfugié par excellence qui irrigue l'image de ce qu'est un vrai réfugié aujourd'hui. Alors, je vais aller vite parce que je ne vais pas avoir le temps, mais en très gros, ils ont été eux aussi reconnus automatiquement sur une période assez longue, de 1979 à 1986, une reconnaissance qui va entre 95 et 100% des demandes d'asile déposées. Et ce qui correspond à un nombre très important, parce qu'on parle de 100 000 personnes sur cette période. Et quand on regarde les documents disponibles, on voit encore une fois une délivrance du statut de réfugié qui n'est pas conditionnée à une crainte personnelle de persécution, et des motifs, comme chez les demandeurs d'asile aujourd'hui, où s'entremêlent peur de la guerre, économie, politique, etc. Alors, donc cette fois-ci, je ne vais pas vous lire des rapports d'activité là-dessus. Pourquoi, pour eux, ce large accueil? Donc, il y a quatre grandes raisons qu'on peut dégager à ce large accueil des Boat People. Contrairement à leur nom, les Boat People, ils sont venus en avion et, hein, ils ont été acheminés par le gouvernement français sur la base de quotas qui ont été prédéterminés. Et donc, ils ont été sélectionnés dans des camps de réfugiés en Thaïlande, sélectionnés sur des bases qui n'ont rien à voir avec la Convention de Genève. Hein, et les critères de sélection, c'est connaissance de la langue française, famille en France, qualification professionnelle, durée du séjour dans les camps de réfugiés. Donc, sur ces critères-là, ils sont sélectionnés. Et une fois qu'ils sont en France, on leur accorde directement le statut. Il y a plusieurs intérêts, quatre grands intérêts à cette reconnaissance-là. Hein, toujours l'intérêt idéologique, discréditer le nouveau régime indochinois, qui a le double tort d'avoir gagné la guerre de décolonisation et d'être communiste. Intérêt électoral, ça se passe sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, qui met en place parallèlement une politique de naturalisation pour ces Boat People, qu'il espère en fait suffisamment anticommuniste et reconnaissant pour voter pour lui. Un intérêt économique, hein, ces Boat People-là, ils ont un assez bas niveau de qualification et une réputation de bons travailleurs, dociles et hors de la sphère d'influence des syndicats, à la différence des immigrés maghrébins qui sont considérés comme trop politisés. Alors, dans un contexte où on parle de la période 79-86, hein, fermeture de l'immigration de travail 74, alors qu'un certain nombre d'entreprises ne sont pas encore touchées par la crise. Hein, donc voilà une main-d'œuvre idéale. Et pour remplacer ces immigrés maghrébins, qu'on a commencé à inciter au retour ou qu'on a commencé à fermer les frontières. Donc voilà, avec ces éléments de contexte en tête, on comprend mieux pourquoi l'OFPRA carrément ferme les yeux sur tous les types de fraudes qu'elle trouve et qu'on retrouve dans les rapports d'activité. Je vous en lis un, par exemple. L'OFPRA a été submergée de faux documents, de fausses déclarations, de certificats douteux d'intervention de pression. Et par la force des choses, il a été contraint de sortir de son rôle et d'appliquer aux rescapés de l'ancienne Indochine des critères plus souples qu'aux étrangers venus d'autres régions du monde. Voilà. Deux derniers groupes, les Espagnols et les Yougoslaves, les choses sont un tout petit peu plus complexes en ce qui les concerne, avec un traitement un peu plus rigoureux. Alors, traitement plus rigoureux, on a deux pays dont les réfugiés ne sont pas communistes pour l'Espagne et pour la Yougoslavie ne sont pas affiliés, ne sont pas soviétiques. Hein, c'est communiste mais pas soviétique, on n'est pas dans le pacte de Varsovie. Et c'est de l'autre côté du rideau de fer, donc on peut venir plus facilement. Alors, quand je dis traitement plus restrictif, c'est toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire comparé à la période d'aujourd'hui, ils sont encore très largement reconnus, hein, mais par rapport à leurs compatriotes des autres pays, un petit peu moins. Je regarde l'heure. Alors, à partir de là, comment est-ce que j'explique la transformation des pratiques entre donc, ces années 50-70 et début des années 80, on commence à observer un début de transformation des pratiques. Ce n'est pas du tout concomitant à 74, c'est la fermeture des frontières. Donc, dans le cadre d'une autre analyse que je n'ai pas le temps vraiment d'exposer là, mais j'ai essayé de déconstruire ce que j'ai appelé la division du travail entre immigration et asile. Selon cette division du travail, on a l'immigration qui est fonctionnelle, utilitaire, hein, et l'asile qui est généreux. Et en faisant un passage en revue des pratiques d'asile à travers les époques et les civilisations, on se rend compte que l'asile remplit des fonctions bien précises. Et j'ai essayé de construire une typologie de ces fonctions-là. J'ai dégagé 4 fonctions, dont certaines recoupent des fonctions qui ont été dégagées pour l'immigration. Une logique de population, c'est-à-dire l'asile sert à peupler une ville, un pays. Hein, et donc ça, on voit beaucoup au Moyen-Âge, il y a des villes qui ont un grand essor parce qu'elles offrent l'asile. L'asile sert, donc logique de main-d'œuvre, deuxième logique, c'est plus développer une ville, un pays, etc. Ou alors, c'est ce qu'on a vu là aussi, logique de main-d'œuvre avec par exemple les boat people. Logique de pouvoir, c'est-à-dire asseoir une idéologie sur une autre, donc on l'a vu capitaliste, communiste, mais si on retourne au Moyen-Âge, c'est l'Église par rapport à l'État, et l'asile est instrumentalisé de la même manière. Et puis, maintien de l'ordre, par exemple ce qu'on voit après la Première Guerre mondiale, hein, logique de police, on essaye de restaurer l'ordre. L'ordre après le chaos. Et les transformations des années 80, des pratiques qui sont relatives à l'asile, sont en fait les conséquences des transformations qui affectent la manière dont on envisage l'asile du point de vue de ces différentes logiques. Si je prends la première, logique de peuplement. Jusqu'au milieu des années 70, les réfugiés sont perçus comme contribuant à la logique de peuplement de l'époque qui postule des degrés d'assimilabilité selon les nationalités avec les Européens qui sont en tête de liste. Parce que les réfugiés sont dans leur écrasante majorité des Européens. Parce que la Convention de Genève, jusqu'en 1971, elle s'applique qu'aux Européens. En 1971, la France signe un traité, qui s'appelle le protocole de Bellagio, qui ouvre le statut aux non-Européens. Donc, le profil des réfugiés change. Ils sont considérés comme moins assimilables. Et étant donné ce nouveau profil, la logique de peuplement est mise à mal. Donc là, c'est 71. Logique de main-d'œuvre. Donc là, contexte de pénurie, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les réfugiés sont perçus comme contribuant à la logique de main-d'œuvre parce qu'ils représentent une force de travail même plus intéressante que les étrangers non réfugiés parce qu'en général, ils viennent seuls, ce sont des hommes et ils ne sont pas concernés par les accords bilatéraux entre la France et leur pays d'origine. Et les transformations qui affectent l'asile avec la fermeture l'économie, le marché de travail, etc., fermeture des frontières, hein, elle change la grille de lecture. À partir de cette nouvelle situation économique, hein, l'inverse de la pénurie de main-d'œuvre, je suis désolée, je suis en train de m'égarer. Du point de vue de la logique de main-d'œuvre, à partir de 1974, l'asile n'est plus utile et même elle est néfaste. Et la dernière logique, la logique de pouvoir. Jusqu'au milieu des années 80, les réfugiés, je vous l'ai montré, elles contribuent à cette logique de pouvoir dans le contexte de la concurrence entre les deux blocs, caractérise de la guerre froide. Hein, donc la figure des réfugiés qui permet de décrédibiliser le régime communiste et de valoriser celui du pays dans lequel il est accueilli. Donc il y a changement géopolitique, et en particulier à la fin de la guerre froide, 1989, ça affecte l'utilité du réfugié du point de vue de la logique de pouvoir. Donc, au fil de ces transformations-là, hein, 1971, 1974, 1989, hein, on a un taux qui ne fait que baisser et apparaît la figure du demandeur d'asile. J'ai cherché partout, le mot demandeur d'asile n'existe pas tout début 1980. On ne trouve aucun document, aucun texte, pas dans la Convention de Genève, pas dans la loi sur la création de l'OFPRA, nulle part. Ils sont appelés réfugiés, qu'il soit candidat à l'asile ou reconnu réfugié. Et donc, avec cette transformation-là, on a l'apparition de la figure du demandeur d'asile, 1980, et celle de débouté, idem, hein, ce mot apparaît en 1990, on ne le trouve pas avant. Alors, conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Deux choses. Pour revenir au point de départ de la réflexion sur le lien entre asile et démocratie. Et je dirais que l'analyse des principes sur lesquels se fonde cette institutionnalisation du réfugié comme persécuté, ça indique que les systèmes d'exclusion que cette définition-là contemporaine du réfugié, elle organise, loin de trahir le modèle démocratique occidental, hein, elle est en fait étroitement liée aux grands principes sur lesquels il se fonde. Deuxième point, plus sur les liens entre les pratiques d'hier et d'aujourd'hui, hein, ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, les causes qui ont conduit la grande majorité de ces réfugiés de l'âge d'or, la belle époque, les 30 glorieuses, on va dire, les 30 glorieuses de l'OFPRA et de l'asile, la majorité de ces réfugiés, les causes, elles sont peu à peu oubliées, pour devenir ensuite illégitimes, c'est-à-dire fuir la guerre civile, fuir une imbrication de politique et d'économique, tout ça, ça devient illégitime. Et l'image du réfugié militant politique personnellement recherché, qui est revisité, glorifié, mais largement éloigné de la réalité de ce qu'a été la demande d'asile des années 50 à 70, elle dessine peu à peu en creux la figure du faux demandeur d'asile d'aujourd'hui, congolais, malien, chinois, suspecté au mieux de fuir un conflit généralisé et au pire la misère. Ceux-là doivent aujourd'hui dissimuler ce que leurs prédécesseurs pouvaient dire ouvertement, l'imbrication des facteurs économiques et politiques ou la peur de la guerre. Donc entre violence collective et violence économique, la situation de la majorité de ces demandeurs d'asile-là, elle est largement en décalage avec cette figure archétypale du réfugié persécuté personnellement, d'où le cycle infernal de la surenchère de fraude et la surenchère de contrôle, d'où les très bateaux d'accords au statut de réfugié. Dans ce contexte, et là c'est presque plus une opinion personnelle, hein, il semble bien que l'asile serve aujourd'hui moins à protéger une poignée d'individus plus ou moins éloignés de cette fiction du réfugié selon l'imaginaire libéral occidental, elle sert moins à ça qu'à légitimer une politique d'immigration de plus en plus restrictive en lui servant de caution humaniste.
Merci beaucoup. On va enchaîner et puis on posera les questions après. Même on trouvera le moyen.
Parce que c'est un peu pas tout à fait la même chose.
Je me doute.
On la faisait même un peu différent. Parce que moi, je vais poser les questions de manière un peu plus large sur la question de démocratie et justice dans notre société. En partant, en essayant effectivement de reposer la question de la démocratie, mais pas vraiment en termes de philosophie politique, mais en disant d'une manière un peu en première analyse, disons que le principe de la démocratie dans la justice, c'est une forme d'égalité des citoyens dans l'accès à la justice, mais que c'est aussi une possibilité d'exercice par des individus non professionnels du pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, si on part de cette première définition préalable, on voit, et c'est le premier point que je voulais évoquer, c'est le point de départ, on voit la difficulté des profanes, on va les appeler comme ça, quand ils entrent dans l'espace judiciaire. Non seulement c'est le cas non seulement des justiciables, souvent perdus, désorientés, affaiblis, ne comprenant pas ce qu'il se passe, ayant l'impression qu'on raconte leur histoire en leur présence absente ou en leur absence présente, ne sachant pas comment se tenir, ne sachant pas quand se lever, quand s'asseoir, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point. Mais on voit aussi, quand on regarde d'autres tribunaux, on voit des non-professionnels qui sont amenés à participer au travail de jugement, soit d'une manière complémentaire aux magistrats professionnels, et dans ces cas-là, on parle d'une logique d'échevinage, soit d'une manière monopolistique, où, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls à juger, et donc à juger au nom du peuple français, puisque c'est comme ça qu'on dit. Quand je parle de ces juges-là, je parle des conseillers prud'hommes, je parle des jurés d'assises, je parle des assesseurs aux tribunaux pour enfants, des juges de proximité. Et depuis quelque temps, et dans certaines cours d'appel simplement, vous en avez entendu parler sans doute, des assesseurs dans certains tribunaux correctionnels. Donc, on se retrouve dans ce moment-là à des profanes qui donc se retrouvent face à des professionnels de la justice, à la fois magistrats, mais aussi avocats et même huissiers, greffiers, etc., etc. En sachant évidemment que là, je fais des grandes catégories, mais que les choses ne sont pas si simples et qu'à chaque fois, ça, c'est plus compliqué. On pourra en reparler. Et ces profanes-là se retrouvent face à ce qu'on pourrait appeler le fait professionnel et à la spécificité du champ juridique et du champ judiciaire, qui finalement, ces deux éléments-là, je vais y revenir, contribuent à l'établissement de frontières entre l'extérieur et l'intérieur du champ juridique et donc des arènes judiciaires. Tout un ensemble d'éléments, et c'est en cela que le champ juridique est véritablement un champ, sans doute au sens de Pierre Bourdieu, et en tout cas est peut-être un des meilleurs exemples possibles de la définition du champ, c'est-à-dire de la fermeture, du partage d'un certain nombre de rites d'entrée et du partage d'un accord commun sur ce qu'on fait ensemble. Et donc, en fait, tout l'enjeu est de montrer d'une concurrence entre les différents individus qui sont à l'intérieur. Et donc, effectivement, cette spécificité du champ juridique auquel sont confrontés les profanes, donc soit justiciables, soit plutôt, en tout cas ici, non professionnels, mais juges, donc ces spécificités s'appuient sur plusieurs propriétés qui donc produisent ou conduisent à renforcer cette frontière. Alors, on pourrait insister longuement sur ces spécificités, je ne vais pas le faire, mais vous les saisissez immédiatement, je pense. Il y a la question du langage juridique, ce qu'on appelle le jargon, qui a des effets immédiats de clôture de l'espace et d'exclusion de ceux qui ne maîtrisent pas le langage juridique, mais aussi de fermeture sur soi-même, puisque ce langage est uniquement compréhensible, ou très largement, par les initiés, on va dire. On pourrait aussi insister sur ce que Bourdieu appelait les rites d'institution, qui contribuent à permettre qui permettent le contrôle de l'entrée dans le champ. C'est les serments à l'entrée, c'est le diplôme de la fac de droit, c'est aussi, par exemple, les vêtements spécifiques, qui est notamment la robe de l'avocat et du magistrat ou du greffier et de l'huissier. Mais on pourrait aussi parler, comme Ringhoffmann, des rites d'interaction, qui sont donc tout un ensemble de discussions entre les différents spécialistes, différentes discussions qui sont incompréhensibles par les non-spécialistes. Et c'est peut-être là où on voit le plus l'exclusion, quand on observe les tribunaux, qu'on voit le plus l'exclusion des non-professionnels ou des profanes, où on parle d'eux, encore une fois, sans qu'ils soient là, et où ils ne comprennent pas ce que l'on dit sur eux-mêmes. Il y a de nombreux exemples ici. J'imagine, enfin, tu le vois très souvent aussi, et là c'est le lien, je pense, notamment, on le voit à l'OFPRA, mais on le voit dans les commissions de recours, on le voit aussi, bien entendu, dans aux tribunaux correctionnels, à chaque fois, dès qu'on y va, on voit tout de suite cette différence et ces rites d'interaction totalement incompréhensibles pour les non-initiés. Mais c'est aussi vrai, et on le voit aussi, je vais revenir dans un instant, pour les donc non-professionnels du droit qui jugent et qui se retrouvent eux aussi face à l'ensemble de ces faits-là. Et donc, ils se retrouvent face à la fermeture du droit sur lui-même et même, en fait, à des logiques revendiquées d'exclusion des non-professionnels. Alors, je ne sais pas s'il y a des juristes ici, mais les fois précédentes, quand j'ai parlé de ça, ça a été très bien pris tout le temps. Donc je le dis tout de suite que ce n'est pas vrai pour tous les professionnels du droit, mais c'est vrai, et de la justice, en ce sens où il y a un certain nombre de militants, non mais c'est vrai en plus, il y a un certain nombre de militants qui revendiquent une ouverture aux droits des professionnels, où les avocats, je vais y revenir dans un instant, militent pour un meilleur accès aux droits des non-professionnels. Il reste que, il me semble que même ceux-là, et en particulier donc les militants du syndicat des avocats de France ou du syndicat de la magistrature, même ceux-là sont confrontés aux faits professionnels, c'est-à-dire à la nécessité, à des contraintes structurelles qui les obligent à protéger d'abord leur profession pour pouvoir garder une position dans cette profession. Et donc, ils sont systématiquement confrontés, et c'est assez difficile à vivre pour eux, à cette volonté politique d'ouverture et en même temps à cette nécessité professionnelle et politique aussi de garder, d'être les gardiens des frontières, les fameux gatekeepers. Donc, voilà, face à ces... Donc, on voit bien qu'il y a des affrontements possibles. Sauf que, précisément, ces professionnels-là de la justice et du droit, et l'ensemble des professionnels de la justice et du droit, revendiquent l'exercice d'une forme de légitimité démocratique. Et donc, disent, nous sommes tout aussi... notre légitimité, c'est-à-dire l'acceptation de notre pouvoir, elle est normale et nous sommes aussi finalement des agents de la démocratie. Alors, comment se voient-ils comme des... Et comment peut-on les voir, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, comme des agents de la démocratie? D'abord parce que ce sont des agents, des défenseurs du droit et de l'état de droit. Et donc, le droit, l'état de droit, le droit n'est pas seulement, et c'est là que ça peut être contradictoire, n'est pas seulement un mode d'exclusion des non-professionnels ou des profanes, mais le droit est aussi un outil, une arme pour... lutter contre l'arbitraire, non seulement dans les régimes autoritaires, mais aussi pour rétablir l'équilibre des dominés face aux dominants. C'est le cas des sans-papiers, où les avocats estiment, avec raison, qu'ils rétablissent d'une certaine manière la balance face à des gens qui n'ont aucune... aucune ressource. C'est aussi le cas des avocats en droit du travail face aux stratégies patronales, par exemple. Mais évidemment, tu as parlé d'histoire, du coup j'en profite. C'est le cas aussi des avocats dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire de la France du 19e siècle, où ils revendiquent une position... ou grâce à leur activité professionnelle, ils revendiquent une position politique, ils revendiquent le droit comme permettant une forme de liberté et une forme de démocratie. Donc le droit est ici un outil pour obtenir, pour développer des droits, finalement, et des droits démocratiques. Donc... ça a l'air évident, mais vous voyez bien que c'est un petit peu contradictoire, puisque le droit est à la fois excluant, mais il est aussi finalement producteur de plus de droits avec un S à droit. Deuxième élément à travers lequel ces professionnels du droit légitiment, enfin, ou revendiquent une légitimité démocratique, c'est autour de leur travail de représentation de leurs clients pour les avocats ou des justiciables. C'est-à-dire que beaucoup prennent la parole au nom du public, au nom des plus faibles. L'avocat dit non seulement « mon client dit que », mais il dit parfois, peut-être entendu, il dit « je ». Dans une logique de transitivité assez intéressante en termes de représentation politique, hein, où l'avocat dit « je », alors que, évidemment, le « je » étant son client. Et donc, on voit ce principe de délégation qui s'appuie donc s'appuie par conséquent sur une forme de légitimité professionnelle. C'est-à-dire que c'est précisément, alors c'est là que ça se complique aussi, c'est précisément au nom de la fermeture de l'espace que eux revendiquent cette capacité à représenter dans cet espace ceux qui ne peuvent pas y entrer. Et qui revendiquent la possibilité, alors, tous les avocats ne font pas ça, hein. Je pense qu'il n'y en a qu'une minorité qui le font, et y compris pour les magistrats, mais tous revendiquent la possibilité d'une parole subversive dans les arènes judiciaires, dans l'arène judiciaire, autour de revendications d'accès au droit. Et c'est donc au nom de la détention d'un capital spécifique propre au champ juridique que ces juristes utilisent leur légitimité professionnelle dans l'espace du procès et dans l'espace public, cette légitimité professionnelle devenant donc de facto une légitimité démocratique. Et elle devient une légitimité démocratique à la fois au nom de l'état de droit et à travers ce principe de représentation des clients. Face à cette revendication donc de légitimité et face à cette définition spécifique de la démocratie, donc face à ça, il y a un autre type, donc j'y reviens, de revendication démocratique, c'est-à-dire de non-professionnels qui donc, en l'occurrence, participent au jugement et qui donc jugent eux aussi au nom du peuple français. Alors, ils n'ont pas la robe, mais, par exemple, au Conseil de Prud'homme, ils ont la médaille qui fait qu'au nom de cette médaille qu'ils portent ou qu'ils mettent sur la table quand ils refusent de la porter, ils jugent au nom donc du peuple français, au nom de la République. Alors, si on veut voir qui sont ces professionnels, ces non-professionnels, et ensuite on verra s'ils sont vraiment des non-professionnels jusqu'au bout. Alors, j'en ai vu trois types. Nous avons d'abord des élus, des gens qui sont élus par leur pair. Donc, c'est les conseillers prud'hommes, c'est les membres des tribunaux de commerce, qui sont élus par par des entrepreneurs, par des patrons. Ils sont élus au nom de leur position en tant que juge pour juger, au nom de leur position dans le monde du travail et au nom de leur appartenance syndicale. Et en cela, ils sont donc, en tout cas, c'est le cas surtout pour les conseillers prud'hommes, leur légitimité s'appuie donc sur leur appartenance au monde du travail, sur leur connaissance parfaite ou meilleure que celle des juges professionnels du monde du travail. Et finalement, sur une forme de démocratie sociale qu'ils contribuent à défendre. On a aussi des juges qui sont tirés au sort. Donc ça, c'est les jurés. Et là, on est dans l'exercice de la démocratie la plus pure, hein, qui est, a priori, le tirage au sort est, en tout cas, considéré le plus souvent comme une des formes les plus voilà, idéal typique de la démocratie. Et là, s'ils participent du moins au jugement, ils y participent au nom de leur appartenance au corps civique, tout simplement. Et puis, il y a un troisième type, qui sont pas des bénévoles, parce qu'ils sont un petit peu rémunérés pour ça, mais j'ai appelé ça des volontaires. Donc, c'est les juges de proximité, ce sont les juges aux tribunaux pour enfants, notamment, où là, ils jugent au nom de... ils sont dans les tribunaux au nom de leur bonne volonté, au nom de leur engagement. Ils sont là parce que, par ailleurs, ils ont un engagement dans la cité, et en particulier, notamment, un engagement social. C'est ce que Jean-Noël Rottière, professeur de sociologie à Nantes, a fait une enquête de longue durée sur eux, et il les appelle des entrepreneurs de soi, porteurs de cause. C'est-à-dire, c'est le plus souvent c'est beaucoup des femmes, en tout cas pour les tribunaux pour enfants, c'est beaucoup des femmes qui sont dans une situation comme ça d'ascension sociale et qui multiplient des engagements sociaux, des engagements bénévoles, des engagements, on va dire, philanthropiques, etc. Pas plutôt maternalistes, d'ailleurs, que paternalistes. Et finalement, ils tirent ces personnes-là tirent leur engagement de la société civile, si tant est qu'elle existe, société civile qu'ils résument, enfin, et dont ils sont finalement une sorte de totalité. Donc, alors, il y a sans doute d'autres figures, mais il me semble que c'est celles-là qui sont les plus intéressantes. Et donc là, on a, vous voyez, des légitimités bien spécifiques, des légitimités démocratiques d'un certain type, et qui se confrontent donc à la légitimité démocratique liée à l'activité professionnelle. Et donc, elles se confrontent dans l'arène du procès. Alors, je n'ai pas le temps de montrer comment, mais on voit... Alors, elles ne se confrontent pas dans toutes les manières, toujours de la même manière. Dans les tribunaux pour enfants... les non-professionnels sont le plus souvent laissés de côté, on ne leur donne pas la parole et le juge professionnel décide sans eux. Ils sont, c'est le problème de l'échevinage où ces non-professionnels sont le plus souvent en fait des agents de support, on va dire, hein, qui permettent de faire une majorité ou qui permettent de donner une image d'une démocratie plus parfaite. Ces non-professionnels peuvent aussi être renvoyés à leur non-pertinence. Dans les conseils de prud'homme, le grand avocat qui essaye de faire la leçon au conseil prud'homme en leur expliquant qu'ils n'ont rien compris au droit et que ce grand avocat va leur expliquer le droit. Mais des fois, ça va dans l'autre sens aussi, puisqu'il n'y a pas que de la domination dans un sens, en l'occurrence, puisqu'ils sont aussi au nom du peuple français. Ils sont là au nom du peuple français, donc ils ont aussi, malgré tout, une autre légitimité. Et donc, parfois, ils peuvent renvoyer les avocats, eux aussi, à leur non, justement, légitimité sociale, et au fait qu'ils ne sont que des professionnels et qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Bref, il y a tout un ensemble de jeux qui montrent comment ces formes de légitimité s'affrontent. Pour terminer, il y a malgré tout, c'est aussi, Bertrand aime bien quand ça se termine par des choses un peu positives pour montrer que toutes ces légitimités peuvent se réunir pour créer une nouvelle démocratie. Il y a malgré tout des formes de rapprochement possibles entre ces formes de légitimité. C'est de montrer quand même qu'il n'y a pas que de l'affrontement et de la lutte et qu'on peut peut-être aussi produire quelque chose, en tout cas contribuer à essayer de faire avancer les choses. D'abord, du côté de ces professionnels du droit, Il y a encore tout un travail de rapprochement de ces professionnels avec les non-professionnels, des formations, du travail collectif avec les organisations syndicales, avec les associations, des formes non seulement de coopération, mais aussi de délégation du travail. On le voit avec les sans-papiers et... etc. Et donc, ces éléments de collaboration. Et puis, de l'autre côté, du côté des non-professionnels, il faut bien dire qu'aussi, on ne peut pas parler de non-professionnels démunis face à ces grands magistrats ou à ces grands enrobés, parce qu'il y a évidemment le plus souvent et de plus en plus une proximité avec le droit. Ces non-professionnels sont dans certains espaces, par exemple, chez les juges de proximité, des diplômés, ou chez les conseillers prud'hommes. Beaucoup ont une telle expérience de conseiller prud'homme quand ils sont conseillers prud'hommes depuis 20 ans que finalement, ils connaissent le droit du travail sans doute mieux qu'une bonne partie des avocats qui arrivent un peu par hasard devant le conseil, ce qui leur donne... Donc cette légitimité juridique qui permet, et donc cette légitimité quasi professionnelle, si on veut, qui leur permet de se rapprocher de cette autre légitimité des professionnels. Et donc la question est alors celle de la manière dont les uns et les autres peuvent jouer avec les différents types de légitimité et comment ils peuvent passer d'une forme à une autre, soit dans les formes dans des éléments de confrontation, soit dans des éléments de collaboration. Voilà.
Bien, ben on va passer aux questions, avant que tout le monde parle.
J'avais une question qui concerne vos deux communications à propos des catégories. Je pense que ça rejoint un petit peu les deux. C'était notamment à propos du statut donc de ces non-professionnels que pourraient être les associatifs ou les volontaires dont tu parlais tout à l'heure. Mais de voir comment, en fait, ces personnes qui sont défendues, que ce soit les réfugiés, éventuellement les sans-papiers ou les gens qui vont être défendus dans un tribunal, de voir justement ces gens-là qui sont vraiment profanes vont être défendus des fois par des associatifs et donc vont être réduits à l'état d'objet quelque part, ils n'ont rien à dire. Et notamment, je me posais la question, comme c'est le cas souvent quand il y a des passages au tribunal, notamment pour les OQTF, de la réécriture biographique en fait des réfugiés ou des sans-papiers qui sont là. Et de voir quelle était la place que prenaient ces intermédiaires qui sont quelque part des interprètes, mais qui aussi ont des choses à jouer dans ce lien à faire entre les deux parties.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Immédiatement, en tout cas.
Moi, j'ai une question qui repose plus sur la demande d'asile et sur la notion de persécution. Je pense à un exemple en particulier, mais peut-être que vous y êtes pas intéressé. Ou c'est le Rwanda en 94 avec la demande d'asile de la femme de l'ancien président. Et comment vous voyez la chose par rapport à ça et du coup l'utilisation de ce genre de demande là.
Bon, on répond déjà à ces deux questions.
Je pense que Karen répondra mieux à ta question parce qu'elle a vu les choses plus concrètement. Alors, effectivement, au-delà de ça, c'est effectivement des gens qui sont des... Tu le dis très bien, hein, des interprètes. Donc, c'est le principe de la délégation. Qui dit délégation dit évidemment confiscation, prise de parole au nom d'eux, mais par conséquent, transformation de la parole de ces gens et imposition d'une certaine place, d'une certaine manière de dire les choses, de faire les choses, etc. Bon, alors, cela dit, alors évidemment, quoi. Alors, moi, je pense notamment à des travaux de. Mais sans doute, tu connais mieux, puis tu n'es peut-être pas d'accord, d'ailleurs, je ne sais pas. De Didier Fassin sur cette question, qui va pas, à mon avis, jusqu'au bout de la chose, mais qui commence à montrer assez bien comment on transforme la parole, mais comment finalement cette parole a de moins en moins de valeur. En tout cas, il me semble que c'est ce qu'il dit et que c'est transformé par il faut des papiers, quoi. Des papiers ou le corps qui les traces de coups, les traces de souffrance, etc. Et que finalement le témoignage aujourd'hui, en tout cas, il me semble que c'est ce qu'il dit, que le témoignage même par les associatifs n'a plus vraiment de valeur. Tout le problème étant, et je crois que c'est toi qui en parlais aussi il y a quelques années de ça, que tout le problème étant de la confiance des sans-papiers ou des demandeurs d'asile envers ces interprètes et inversement, et les logiques de mensonges, etc., qui du coup finissent par transformer un peu cette situation de domination et de dominé, parce que comme les dominés racontent aussi des histoires aux corps intermédiaires pour qu'ils les défendent mieux, du coup, ça devient un petit peu compliqué. Et alors, ça, c'est pour les demandeurs d'asile, mais c'est la même question, effectivement, pour les syndicalistes qui vont défendre les salariés au prud'homme, où il y a là aussi une espèce de, malgré tout, effectivement, de remise de soi, et donc un grand pouvoir de ces syndicalistes, finalement. Pour, c'est ce qu'on disait à Cromwell il y a quelques semaines quand on avait fait une journée d'études là-dessus, qui parfois suggère de ne pas aller au tribunal ou de ne pas aller au conseil, c'est-à-dire qui impose des formes de solutions à des gens et qui leur construisent finalement à la fois un rôle et une position.
Ouais, peut-être. Pour rajouter à ça, parce que je suis complètement d'accord, et Didier Fassin, il disait que maintenant le lieu de la preuve, c'est le corps. Parce que la parole, on ne peut plus la croire. Mais toute la complication pour les associations, parce que les associations, elles jouent ce rôle de passeur, elles traduisent en fait les attentes de l'institution et le discours des demandeurs. Elles le mettent en forme, donc elles traduisent et les attentent pour leur faire comprendre, et puis elles mettent en forme. Mais toute la complication, c'est qu'aujourd'hui, la preuve, c'est à la fois, on demande à la fois aux gens d'être exactement ce réfugié-là dont je vous ai parlé, et en même temps, on leur demande de dire la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les officiers de protection de l'OFPRA, ils n'ont pas beaucoup de moyens de vérifier, finalement. Hein. Et donc, la spontanéité, etc., c'est quelque chose qui est jugé. Donc, il y a cette injonction paradoxale où, à la fois, le demandeur, il doit dire les choses d'une certaine manière parce qu'il doit rentrer dans la logique de la Convention de Genève, dans la logique de la preuve telle que les agents la pensent. Et en même temps, ils doivent avoir l'air spontané et que c'est leur histoire propre. Et du coup, toute la difficulté aussi des associations, c'est de laisser cette parole-là qui est personnelle, puisque ce qu'il faut raconter, c'est son histoire personnelle, et il ne faut pas trop donc formater, mais en même temps, il faut le formater suffisamment pour que ça rentre dans la boîte. Et du coup, il y a une grande difficulté à ce niveau-là, quoi. Mais du coup, je n'ai pas répondu à la question, mais ça m'arrange. Non, mais alors, donc c'est la femme de Abiram, voilà, ça, je dis très mal son nom à chaque fois, qui a fait une demande d'asile. La femme du dictateur rwandais qui a fait une demande d'asile. Et en fait, l'OFPRA était très gênée avec cette demande. Elle a mis des années à répondre. Et puis finalement, elle n'a pas répondu. Et c'est la commission des recours qui a rejeté. Hein, c'est bien ça. Hein. Donc, alors, je la connais pas de près, hein, cette histoire, je la connais de loin, je me suis pas... j'ai pas commencé à la détricoter, mais ce qu'on voit là, bah, c'est déjà la différence de place entre l'OFPRA et la Cour, hein, qui est l'OFPRA qui est quand même... Alors, elle était sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, après, elle était sous tutelle de l'immigration et l'identité nationale, maintenant, elle est sous tutelle de l'intérieur, c'est quand même une administration sous tutelle, et d'une Cour qui, a priori, est relativement indépendante, maintenant, qui est sous la juridiction du Conseil d'État. Et donc, on voit, avec cette histoire-là, on voit un OFPRA gêné pour répondre, et juste, ça permet de voir, effectivement, la question diplomatique à partir de la question de l'asile, et qu'elle pose problème. Et moi, j'ai vu un peu de près, à l'OFPRA, il y a des dossiers qu'on appelle sensibles. Et donc, ces dossiers-là, les officiers de protection ne les voient pas, en fait. Elles passent au-dessus, tac, elles vont directement au bureau tout en haut, parce que, comme dans beaucoup d'institutions, les supérieurs sont au 7e étage. Et donc, elles passent là, et en fait, on ne les voit pas, ces dossiers-là. Mais ils existent. Ils ne sont pas si fréquents, mais ils existent. Et voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus... Alors, cette personne-là a été exclue du statut de réfugié. Comment ça fonctionne, la Convention de Genève? La Convention de Genève dit les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, on ne peut pas leur accorder une protection. Mais il faut d'abord montrer... On dit d'abord qu'on est réfugié, et si on est réfugié, on est exclu. Donc, voilà. Donc, cette personne-là, elle a été exclue du statut de réfugié par la Commission des recours.
Laurent, tu as parlé de l'exemplarité du champ juridique fermé, etc., autonome et tout. Est-ce que la récente décision de permettre à des sénateurs, par exemple, à des collaborateurs de sénateurs, de ne pas avoir le diplôme de droit pour pouvoir être avocat, est-ce que c'est juste un détail, ou alors est-ce que c'est une brèche dans ce bloc ?
Avant de voir ce cas-là, il faut aussi voir l'inverse. C'est-à-dire, c'est ce que Antoine Vaucher explique en ce moment. C'est là-dessus qu'il travaille sur ces hommes politiques et ces hauts fonctionnaires qui deviennent très vite avocats en même temps. Hein. Alors, effectivement, c'est ça peut-être que tu voulais dire. Oui.
Sans diplôme.
Oui, c'est ça. Ah oui, mais parce que là, il y a eu une fermeture depuis quelques...
Non, là, non, ça vient d'être ouvert.
Oui, d'accord, mais c'est compliqué parce que le barreau n'aime pas ça du tout. Enfin, n'aime pas trop ça.
Ça date de quelques jours. Hein.
Oui, non, mais ça fait plusieurs années qu'il y a des demandes. Par exemple, Noël Mamère et
Jean-François Coupé.
Voilà. Non, ça fait c'était avant. Donc... Non, mais alors, en fait, toute la question est de savoir... Alors, en même temps, le champ juridique, il n'est pas trop fermé parce que ce sont quand même tous des diplômés de droit, ou en tout cas, sinon, en droit, du moins... Enfin, après, pour les sénateurs, c'est un peu différent, mais c'est beaucoup des hauts fonctionnaires, si tu veux, c'est pas qu'eux, hein, mais c'est beaucoup des hauts fonctionnaires qui, finalement, passent du champ du pouvoir au champ juridique. Alors, effectivement, tu as raison, il y a des liens entre ce champ du pouvoir et le champ du... la haute fonction publique et le champ juridique, donc il n'est pas si fermé que ça. Ça c'est très juste. C'est pas qu'il y a une ouverture là, c'est qu'il y a des circulations qui sont entre ces deux champs qui sont plus faciles. Alors, sauf que ça pose des difficultés malgré tout au barreau, parce que évidemment ces gens qui n'ont pas de diplôme, de droit, en tout cas à proprement parler, qui peuvent malgré tout prêter serment. Bon, ceux-là sont assez peu finalement à plaider, etc., et deviennent principalement des... soit c'est une fonction qui est effectivement de recasement, etc., soit c'est aussi une manière de... Voilà, du lobbying principalement auprès des institutions, puisqu'ils ont un carnet d'adresse... Ségolène Royal. Mais Ségolène Royal, François Hollande, tout ça, ont évidemment des. Enfin, lui, un peu, en ce moment, il va peut-être être moins avocat, on verra. Mais en tout cas, ils ont des carnets d'adresses qui, évidemment, leur permettent de jouer plus ce rôle. Mais là où tu as raison, j'avais pas pensé, effectivement, à le dire, mais ça pose quand même une vraie question du lien entre en l'occurrence. parce que tu parlais d'indépendance de la justice, c'est aussi c'est un des éléments centraux quoi, de la démocratie, entre l'indépendance judiciaire et, enfin, par rapport au pouvoir politique, là, ça pose quand même une question assez, assez grave et assez importante, quoi, effectivement.
Oui, moi, je voulais poser une question, alors plutôt à Karen, mais je crois que j'ai pas le droit en fait de remobiliser ce qui a été dit tout à l'heure. J'en sais. Alors je le ferai juste sous forme de remarque, et parce qu'en fait je trouve qu'il y a une... non c'est pas que je sois borné et que j'ai des idées fixes, c'est que vraiment
c'est
je
pas ça, c'est très sage.
Ah d'accord, je suis très sage. Non, j'ai déjà eu la remarque un autre jour, c'est pour ça. Et non, je voulais réagir par rapport au fait. Alors je vais reprendre un petit peu dans l'ordre des interventions. Sur la question de ce que tu disais, Étienne, tout à l'heure, sur les programmes de SES, enfin, tu étais dans une logique de démonstration du fait que la réforme des programmes par un groupe d'experts, qui était donc plutôt interlocuteur du ministère, pouvait avoir des conséquences sur le terrain, dans la manière d'enseigner et dans la manière dont les enseignants sont obligés de s'approprier ces programmes et donc de reformuler une partie de leur enseignement, en tout cas. Et ce que je voulais, c'était plus une remarque en fait que je voulais apporter tout à l'heure, c'était que, bon ça c'est peut-être la partie explicite de la réforme dont tu parlais tout à l'heure, mais il y a aussi autre chose, c'est que on s'appuie aussi, je rebondis aussi sur ce que tu disais Bertrand, j'avais une question mais je te la poserai à part, sur la question de l'autonomie, c'est qu'on s'appuie finalement plus de manière insidieuse sur l'autonomie des fonctionnaires, ici en l'occurrence des enseignants, en proposant par exemple en seconde, formellement, à des enseignants d'économie-gestion d'enseigner les SES. C'est-à-dire que finalement, il y a la partie un petit peu explicite des programmes qui viennent des groupes d'experts, etc., qui tombent dans les établissements, mais on s'appuie aussi sur des catégories finalement assez propres des enseignants, de SES d'un côté, d'économie-gestion de l'autre, qui ont des manières d'appréhender l'économie qui sont assez différentes, en partie différentes en tout cas, sans parler de la sociologie. Mais je crois qu'il y a cette partie-là, et donc on s'appuie sur ces fonctionnaires de terrain aussi, et on s'appuie sur leur catégorie, et donc sur leur rapport à l'autonomie pour finalement faire passer des réformes. Ça, c'était le premier point. Pardon ? Ouais. Et alors pour revenir à ce qui a été dit et plutôt à ce que tu disais Karen tout à l'heure, c'est que je me posais la question. Tu parlais de ces rapports à la demande d'asile, ces rapports chronologiques hein, que tu donnais à la fin. Et quand on voit ce qui se fait, enfin ce qu'Alexis Spire a écrit, par exemple quand il a écrit l'asile au guichet, et qu'on voit le poids des fonctionnaires de terrain là aussi qui sont au guichet et qui sont donc en interaction avec les demandeurs d'asile, et qu'on voit à quel point ils agissent avec leur catégorie. Moi, enfin, réellement, la question que je me pose, c'est de savoir quels sont les rouages entre une personne qui décide, puisque manifestement, les quatre points chronologiques que tu donnes, ils sont visibles statistiquement. Mais comment est-ce que ça tombe et comment est-ce que ça peut être appréhendé sur le terrain? Et je crois, enfin, pour reprendre aussi le thème et puis quelque chose que l'on voit ici sur Poitiers. Je pense que le préfet n'est pas là, donc je vais pouvoir en parler un petit peu. Mais enfin, ce qu'on voit dans l'interprétation aussi à la préfecture hein, de ce qui se passe pour ces renouvellements de titres de séjour, c'est que le poids des fonctionnaires de terrain, alors là c'est pas l'OFPRA, hein, mais c'est la préfecture, mais le poids des fonctionnaires de terrain semble avoir un rôle déterminant dans la rétention d'informations, dans certaines pressions qui peuvent être faites, dans le fait de retirer la procédure judiciaire, par exemple. Et pour autant, on sent bien qu'il y a des directives qui sont derrière. Donc l'adéquation entre ce qui se passe sur le terrain, l'action des catégories des fonctionnaires de terrain, et en même temps la logique du haut vers le bas, enfin, je me pose la question, j'ai pas la réponse, mais c'est pour ça que je la pose, quoi. Mais j'ai du mal à voir l'articulation qui se fait entre les deux niveaux, quoi. Voilà.
Ouais, on va peut-être prendre plusieurs questions, parce que
voudrais juste dire un mot quand même sur le problème des demandeurs d'asile, hein, parce que moi je fais partie de la CIMADE et on est tout le temps en contact avec ça. Il faut bien voir que la préfecture n'a pas de pouvoir sur les demandeurs d'asile. Les gens qui font leur demande d'asile, ils ne la font pas à la préfecture, ils la font à l'OFPRA. Alors par contre, le problème, c'est les déboutés du droit d'asile. Alors là, oui, c'est là que la préfecture arrive. Mais il n'y a pas de confusion entre les deux.
Oui, parce que j'avais levé la main avant, excusez-moi. Et puis je dois partir. Non, je voulais juste dire que l'OFPRA, actuellement, nous paraît quand même une courroie de transmission directe avec le politique, étant donné que si ceux qui ont l'occasion de lire les décisions de l'OFPRA, ce sont systématiquement des copier-coller. Donc ils ont des... Comment dire, il y a des directives de répondre comme ça. On étudie les situations individuelles de façon très, très relative, oui. Enfin, je sais pas, ceux qui ont l'occasion de voir les décisions de l'OFPRA, c'est vraiment des copier-coller. Hein, donc il y a des directives et c'est directement inspiré par la politique actuelle. Merci.
Bon, je vais très vite et je ne réponds pas à Stéphane. Non, c'était une hypothèse qui me venait en t'écoutant, Laurent, sur en faisant une focale un peu plus macro, peut-être, sur droit et démocratie aujourd'hui. Est-ce que il n'y a pas une construction politique ces 10 dernières années, peut-être plus ancienne, mais mettons ces 10 dernières années, avec cette montée en puissance, cette inflation des lois, cette réforme pénale qui n'en finit pas, qui consisterait, pour les équipes dirigeantes en place, à donner une réponse à cette équation droit et démocratie en disant, ben voilà, il y a une justice près de chez vous. Enfin, voilà, à chaque fait divers, ou presque, une nouvelle loi. Et est-ce que ce n'est pas une forme de construction sociopolitique, là, contemporaine, assez, assez récente et assez marquante, je pense, des années 2000, qui effectivement permet d'évacuer un véritable questionnement de cette articulation droit et démocratie et de mettre en scène une forme de réponse naïvement démocratique, voilà, d'un accès au droit qui se fait, comment dirais-je, voilà, qui s'élabore, c'est ce qui se construit de manière directement en lien avec les faits divers et variés. Voilà.
Juste une dernière.
Je ne réponds pas non plus à la question. Je fais juste une remarque et une question à la tribune. Enfin, une remarque pour la salle. C'est pas un cas unique, la reconversion dans le droit, puisqu'il y a les inspecteurs, par exemple, qui sont un grand lieu traditionnel dans l'éducation nationale. Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont un grand lieu qui accepte des gens reconvertis de différentes fonctions. On en a connu un à Poitiers, par exemple. Bon. Bref, donc ce qui serait intéressant, c'est de voir... Oui, des gens illustres. Donc, ça serait de voir les variations dans ces modes de reconversion et d'appropriation des groupes professionnels pour exercer une influence ici ou là. Ou, enfin, voilà, un peu dans la logique de ce qu'a fait François ce matin. Enfin, ça serait intéressant de voir comment ça se structure, cette affaire-là. Ma question, c'est sur le militantisme et les effets sur le militantisme. C'est une question bateau et classique, j'en conviens, mais qui est quand même importante. C'est de se demander, bon, il y a la mobilisation des ressources pour le droit, les ressources militantes ou ressources professionnelles, mais il y a aussi les effets de cette mobilisation des ressources dans le droit sur la pratique militante elle-même. Et donc je m'adresse à tous les trois, en fait, hein, sur cet effort considérable qui consiste à monter des dossiers individuels, accompagner les gens, etc. De quelle manière, dans quelles conditions, à quel point ça affecte ou pas l'engagement et les pratiques militantes elles-mêmes.
La courroie de transmission, etc. Alors, c'est toujours la question hein, qu'on me pose un peu. Est-ce qu'il y a des quotas? Quelles sont les directives, etc. quand je parle de mon travail. Et à chaque fois, je suis désolée de répondre qu'il n'y a pas de quotas, il n'y a pas beaucoup de directives et il n'y a pas de courroie de transmission. Parce qu'on aimerait tous qu'il y en ait. Et du coup, quand on commence à enquêter sur l'OFPRA, c'est peut-être pour ça que je mets 6 ans à faire ma thèse, c'est que... Si on est sincère avec ce qu'on voit, c'est des agents, des officiers de protection qui sont venus pour reconnaître des réfugiés, qui font concrètement que des rejets et qui disent qu'en même temps, ils ont une grande liberté et une grande autonomie. Et du coup, on fait quoi avec ça? Et c'est peut-être ça qui m'a amené à faire toute cette histoire et le Moyen-Âge et aller partout. C'est pour comprendre ça. Et parce que je voulais prendre au sérieux et ce que me disaient les demandeurs d'asile et les associations, mais aussi ce que me disaient ces agents-là, et pas forcément prendre un seul point de vue. Alors, ceci étant dit, alors, au début, j'ai quand même fait un travail de recherche de mauvaise foi, comme je dis, c'est-à-dire que je voulais trouver des choses, donc je les ai cherchées. Alors, j'ai dit, ah, c'est parce qu'ils sont devenus des contractuels, et comme les contractuels, eh ben, c'est moins solide, on peut leur faire faire ce qu'ils veulent. Ah, c'est parce qu'ils ont des difficultés à avoir des informations sur les pays, ils ne sont pas assez formés, etc., ils n'ont pas assez de... Et donc, du coup, ils font des mauvaises demandes. Mais en fait, en étant tout à fait honnête, ceux qui sont fonctionnaires à l'OFPRA, eh ben, c'est des logiques d'action qui font qu'ils peuvent être encore plus fidèles à l'institution. Le fait de ne pas avoir assez d'informations, quand on regarde la Cour nationale du droit d'asile, elle fait plus d'accord que l'OFPRA. Or, les juges de la Cour du droit d'asile, ils sont beaucoup moins informés, ils ont beaucoup moins d'informations sur les pays. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut prendre dans un sens ou dans l'autre quand on a envie de faire dire au terrain ce qu'on a envie qu'ils disent. Les agents, c'est très intéressant, la question des agents, je n'ai pas du tout eu le temps de vous en parler, mais en fait, les agents sur les 30 glorieuses de l'OFPRA, c'est des anciens réfugiés. Au début de l'OFPRA, c'est des étrangers, ils n'ont pas la nationalité française, ils travaillent à l'OFPRA. Et c'est des gens qui instruisent la demande de leurs compatriotes. Des Espagnols, c'est des Espagnols. Il y a des gens qui me racontaient qu'on parlait espagnol dans la section espagnole, on parlait russe dans la section russe. C'était une tour de Babel, c'était une espèce d'organisation hybride entre une organisation internationale, une administration, etc. Ça c'est une transformation que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais donc on a transformation des pratiques, transformation du profil des demandeurs, réfugiés, demandeurs d'asile, déboutés, et on a une transformation des profils des agents, qui passent de étrangers, anciens réfugiés, etc., à qualification par l'expérience, hein, parce qu'on connaît la migration, on connaît l'histoire du pays, à qualification par le diplôme, ce qui est assez classique en même temps comme trajectoire, des agents qui ont un diplôme élevé, peu d'expérience, et c'est ça, et la légitimité, c'est la distance, c'est plus le rapprochement. Je ne dirais pas qu'il y en a une qui est plus valide que l'autre. C'est pas parce que la légitimité par l'expérience, elle fait plus de réfugiés qu'on doit dire c'est la bonne. C'est ça qu'on a envie de dire. Et moi, je suis toujours en train de me retenir. Et sur la courroie de transmission, c'est aussi plus compliqué que ça, parce que la période, finalement, ces agents étrangers, anciens réfugiés, etc., ils donnent des réponses. Ils vont reconnaître le statut, mais est-ce qu'ils sont autonomes, indépendants, etc. Non, finalement, ils donnent des réponses qu'on a envie qu'ils donnent. Donc, si on les a choisis, c'est aussi parce que leur profil et leur disposition, elles sont en cohérence avec l'injonction qu'on leur demande. Et les agents d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont moins autonomes ou moins indépendants? Je dirais pas ça non plus. Donc, bon, il faut que j'arrive à réussir à le formaliser, à le tenir jusqu'au bout. Mais en tout cas, les pistes, c'est que c'est trop facile de parler de manque d'indépendance quand les pratiques ont l'air plus restrictives et on voit effectivement que je vous ai décrit les années 50 à 70. Alors on pourrait aussi parler de courroie de transmission. Je vois pas pourquoi il y en aurait plus aujourd'hui. Mais le taux, d'accord, pourtant il a chuté. Donc en fait, c'est assez complexe si on veut bien se tenir à distance des catégories normatives, ce qui est avec ce sujet-là vraiment très très difficile. Voilà, et puis du coup, je vais te laisser répondre à la question des...
C'est Yves qui va répondre, mais juste je vais dire par rapport à un quart de seconde, parce que je pense que tu es mieux placé que moi pour parler de ça. Sur la justice. C'est gentil de ta part de rappeler que dans le livre qui s'appelle 2012, les sociologues s'invitent dans le débat, il y a notamment, en plus des articles d'un certain nombre ici, il y a un article que j'ai fait sur la justice des années Sarkozy, où effectivement, j'essaye de montrer que comment effectivement il y a une instrumentalisation de la logique de la proximité à la justice autour de la figure de, et donc à la démocratie autour de la figure de la victime, qui devient finalement, enfin, on passe du citoyen à la victime finalement. C'est plus le citoyen qui est injusticiable, c'est la victime nécessaire, et c'est même plus le justiciable, c'est la victime. Et alors, moi, quand j'ai fait effectivement pour cet article la liste mais tout le monde l'a fait, hein, des textes, c'est totalement invraisemblable, parce qu'évidemment, c'est une espèce, on parle de millefeuille, mais c'est même plus un millefeuille, enfin, ou alors il est immangeable. Parce que c'est vraiment une masse de textes qui sont totalement inapplicables, les uns plus que les autres, où ils ne font que répéter les choses, etc. Il y a effectivement une manière de légiférer qu'on n'a jamais vue, qui est, je pense, inédite quand même, puisque c'est une fait de légiférer aux faits divers, alors ce qui existait avant, mais qui est là systématisé, et donc effectivement, tu as tout à fait raison, au nom de cette, j'aurais dû le dire, au nom de ce joli mot qui est là, et de l'idée que la justice doit être démocratique, avec cette idée quand même que la proximité, cette espèce de topos ou de doxa de la proximité est finalement le nec plus ultra ou l'alpha et l'oméga de la démocratie aussi, quoi. Et donc c'est aussi peut-être ça qu'il faudrait, sur lequel il faudrait revenir, c'est ce qui évidemment casse toutes les logiques alors de corps intermédiaire, on l'a vu, mais aussi de délégation, etc. Donc parce que c'est toujours pareil quand on dit la délégation c'est de la confiscation, etc. Et en même temps, effectivement, quand on voit ce que c'est la proximité, on se dit que peut-être que finalement la délégation, c'est pas que la confiscation.
Bon, alors, je voudrais répondre à Bertrand sur le problème du militant sans papier, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que je crois que quand on commence à en faire de plus en plus, quoi. Il y a le problème, de la professionnalisation du militant. Je le vois très bien à la CIMADE, en particulier sur des choses très pointues, comme par exemple ceux qui se sont spécialisés sur la situation des sans-papiers en prison. Et depuis que moi aussi j'ai mis la main là-dedans à la Fivonne, je me rends compte qu'il y a des gens qui en ont fait une véritable profession, alors qu'ils sont tous bénévoles. C'est souvent des gens de mon âge, et qui ont élaboré un savoir absolument incroyable sur cette situation. Alors, comme aujourd'hui avec Internet, il y a une espèce d'intranet à l'intérieur, donc on voit des gens, c'est absolument incroyable, quoi. Alors, ce que je voulais dire sur le problème de l'asile, c'est que comment on voit l'asile, nous ? On le voit très bien, parce que les demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ils doivent faire un récit qui va... pour faire leur dossier auprès de l'OFPRA. Et le récit, c'est souvent des associations qui le font. Et donc, on voit bien à ce moment-là que dès qu'on commence à en faire un certain nombre, par exemple, nous sur Poitiers, on a plusieurs catégories. On a la catégorie guinéen. Bon, alors, les Guinéens, on connaît par cœur leur histoire, puisque de toute manière, ils sont tous à peu près de la même région, ils ont à peu près tous la même histoire. Différente pour les hommes et pour les femmes, puisque pour les femmes, c'est le problème de l'excision, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on finit par avoir un... quelque chose de relativement dramatique, c'est le fait qu'on commence à se poser la question de savoir s'il faut les croire ou non. Voilà. Et je pense qu'on ne peut continuer à aider les demandeurs d'asile qu'à condition de ne pas se poser cette question. Parce que si on se pose la question de savoir si leur récit, leur histoire, ils ne l'ont pas copié à d'autres, etc., on n'y arrivera jamais. Parce que de toute manière, il est bien certain, compte tenu de ce que vient de dire Karen, que les situations sont très semblables. Très semblables. C'est un espèce de mélange permanent de situations économiques, de situations politiques, mais pas de manière... pas là où on voudrait l'avoir. Moi, je pourrais citer 25 exemples, mais il y en a un qui me vient toujours à l'esprit d'un Guinéen, un type absolument charmant, qui venait parce qu'il travaillait pour la Société d'électricité de Guinée et il n'était jamais payé, quoi. Et il essayait de nous expliquer combien il n'y pouvait rien, parce qu'il n'était pas de la... il y avait une espèce de direction, la direction de l'électricité de Guinée était tenue, me disait-il, par une certaine ethnie, et que lui n'en était pas, et qu'il n'arrivait jamais à... Bon, alors, c'est intéressant, parce que là, on avait des mélanges de politique, d'économie, et bien évidemment, personne ne l'a cru à l'OFPRA, quoi. Ni à la CNDA.
Par rapport à ce que vous disiez, hein, je crois que le militantisme et la professionnalisation, heureusement qu'on on a une protection, on n'y va pas affectivement. Et donc, c'est vrai que l'affectif, quand on est militant, on y va directement parce qu'on est concerné par X et Y raison. Et la professionnalisation, mais ça met un stop. Et on peut aller plus loin et on peut rester objectif. Donc, en fait, c'est vrai qu'heureusement qu'on peut entendre au jour d'aujourd'hui, je suis très contente d'entendre ces discours-là, parce qu'il y a quelques années, le militantisme et la professionnalisation, on ne pouvait pas l'entendre. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se dire et qui doit se dire pour que le militantisme puisse continuer.
Oui, mais enfin, bon, on n'a pas trop le temps, mais il y a quand même un...
Alors, entre guillemets, excusez-moi, oui. Entre guillemets, c'est pas la profession.
Non, mais j'entends bien. Mais après, il y a une autre question qui consiste... Qui consiste à se demander, comment on va dire ça, si, alors moi je ne parle pas des sans-papiers parce que je ne les connais pas, mais je connais mieux des gens qui se sont spécialisés dans le droit du travail. Et ceux-là, on peut se demander, au fur et à mesure, ces gens-là sont devenus à ce point professionnels qu'il y a une espèce de distance avec le monde du travail qu'ils ne connaissent plus vraiment, avec, et du coup, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ils le connaissent moins, et donc, petit à petit... ils se rapprochent des avocats jusqu'à devenir effectivement parfois même avocat, parce que c'est possible. Au bout de, je ne sais plus, 15 ans de conseil de prud'homme, on peut devenir avocat, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Mais, et donc, en fait, en tout cas, de la part des organisations syndicales, je peux vous dire que les choses ne sont pas si simples et qu'il y a une inquiétude, une angoisse très forte envers ces futurs professionnels, ceux-là, parce que face à cette professionnalisation et donc la peur que ça devienne des électrons libres, etc., etc. Enfin, non, mais c'est ni l'un ni l'autre, sans doute, quoi. C'est quelque part entre les deux, hein, que les choses se jouent.
Vous avez l'autre corps de métier, par exemple, actuellement, il y a une profession qui monte en puissance, c'est la médiation. À côté de ça, vous avez la médiation qui rentre dans la justice, et quand vous côtoyez des médiateurs et quand vous côtoyez des juristes qui sont eux-mêmes, qui sont devenus médiateurs aussi, la population entre les deux, ben, ils peuvent pas supporter parce qu'il y a des rapports de pouvoir.
Oui. Les aides médiateurs.
Bon, on va clôturer la séance. Merci à tout le monde. Et sans doute.